Et on retrouve le parc naturel régional de la vallée du Trien de l'Arpille à la Cime de l'Est. C'est le nom complet. Pour cette reprise sur Agone Radio, on va faire le point sur plusieurs projets. Le premier, c'est le passeport découverte et le jeu d'évasion digital. Deux sujets pour cette première partie. Éline Premant avec nous, salut.
Bonjour, merci pour l'accueil.
Avec plaisir. Et puis Nicolas Metton, salut.
Bonjour.
Alors de manière générale, Éline, ces deux projets s'inscrivent, vous le dites, dans la durabilité. En quoi ?
Oui, effectivement. Donc ces projets, ils s'inscrivent dans l'axe économie durable, donc qui cherche à promouvoir le tourisme et le loisir durable. Donc c'est clairement le but de ce projet, d'avoir un tourisme qui soit plus durable, puisqu'on met en valeur l'existant, ce qui existe déjà, ce qui vit depuis de nombreuses années sur le territoire.
Alors, c'est une chose intéressante, hein. On crée pas des nouvelles choses, on n'invente pas, mais ce qui existe, on veut le mettre en avant. Ça, c'est l'aspect durable. C'est
exactement. Vraiment ça.
Alors, il y a un objectif que chacun puisse finalement s'identifier à ce label, à ce parc.
Oui, tout à fait. Donc le passeport découverte, vu qu'il a vraiment une forme de passeport, comme on pourrait imaginer un passeport avec lequel on part en vacances et puis on voyage et on le fait estampiller. Donc l'idée, c'est que chaque citoyen des 7 communes du parc s'identifie à ce projet de grande ampleur, mais en particulier à ce passeport découverte en l'utilisant et puis en allant le faire estampiller chez nos différents partenaires.
Alors il y a 7 partenaires en tout, c'est un par commune. Qu'est-ce qu'ils proposent ces partenaires ?
Exactement, donc on a aussi essayé d'avoir une répartition qui puisse plaire à tout le monde, donc avec un côté plutôt naturel, un côté plutôt culturel, aussi d'autres éléments qui sont des lieux qui attirent chaque année de nombreux visiteurs, donc pourquoi ne pas juste visiter déjà la commune d'à côté et ses activités touristiques plutôt qu'aller plus loin ? Donc on a vraiment ici cherché à mettre en valeur et puis du coup à offrir des avantages aux détenteurs des passeports découvertes.
Alors, on a plusieurs choses qu'on peut voir avec ce passeport. Alors, je cite pêle-mêle, il y a la Grotte aux Fées, il y a, pour Saint-Maurice, il y a les Gorges du Trien, le Zoo Alpin, Trappe-Tour à Martigny, la Tyrolienne des Maussons, la Buvette du Glacier à Trien, le Théâtre du Dé, et on va en parler tout de suite du Théâtre du Dé. Juste avant, ce passeport, chacun l'a reçu chez soi, hein, faut
exactement.
Le préciser.
Exactement.
Donc par la poste.
Oui, exactement. Donc chaque ménage du territoire du parc a reçu un passeport. Il est valable pour l'ensemble du foyer. Et puis donc des tarifs avantageux sont offerts par nos différents partenaires.
Il faut présenter le passeport quand on se rend à l'endroit désiré.
Exactement, à l'entrée, s'annoncer en tant que citoyen avec le passeport. Et puis un rabais sera octroyé.
Alors c'est magnifique d'avoir un passeport qui donne des rabais. Il y a le Théâtre du Dé, Nicolas Metton. Bonjour.
Rebonjour.
Alors, le théâtre du Dé à Eviona s'investit dans ce passeport sous quelle forme finalement ?
D'abord, on a répondu volontiers à l'invitation faite par les responsables du parc, et qu'il était important que la commune d'Eviona, en tant que commune partenaire du parc, soit représentée dans cette initiative. Et puis, c'est aussi l'occasion de valoriser l'action du théâtre du Dé qui est maintenant en place depuis plusieurs décennies. Je crois qu'il y a une tradition théâtrale qui existe dans beaucoup de communes, mais en particulier chez nous. Et non seulement il y a une tradition théâtrale, mais elle s'est aussi matérialisée par un lieu culturel qui est devenu une institution culturelle importante et reconnue.
Loin à la ronde.
Tant à l'échelle régionale qu'à l'échelle cantonale, je crois qu'on peut le dire.
Alors le passeport, il permet de venir voir les spectacles, tous les spectacles avec un petit rabais ou comment ça se concrétise ?
Alors effectivement, c'est prévu d'avoir 4 places gratuites avec le détenteur du passeport pour un des spectacles qui est prévu à l'agenda, à la saison culturelle.
Choisir un des spectacles et puis il peut venir avec la famille, hein, parce que c'est bien, ça a été précisé, un passeport par famille. Ce théâtre, alors vous le dites, c'est presque un centre culturel. Quelle est son histoire ? Comment c'est né tout ça ?
Alors, il faut remonter à la création de la Compagnie du Dé, hein, qui date de 1979. Et puis, le lieu culturel, lui, date de 1989, où la Compagnie du Dé a pu acheter en rural au milieu du village suite au succès du fameux spectacle Les Trois Mousquetaires dans la carrière de Collange, dont les plus anciens doivent se rappeler
quelque chose très vaguement. Je crois que j'avais eu froid. J'étais petit et j'avais eu froid.
C'est l'année de naissance de ma fille d'ailleurs, pendant le spectacle, hein, donc je m'en rappelle particulièrement.
Chose qui marque comme ça.
Et puis ce lieu, ensuite, il y a une étape importante avec la création de la fondation du D, où le lieu culturel devenait trop lourd à gérer pour la seule compagnie. La compagnie, en collaboration avec les communes d'Eviona, de Collanges, d'Orena et Verneia, donc c'est une réalisation intercommunale, ont créé la fondation en 1998, donc 25 ans que le lieu maintenant est géré, qu'il y a une saison culturelle avec une activité qui est reconnue. Le Théâtre du Dé est maintenant membre, a rejoint aussi la Bobo avec les principales institutions théâtrales et culturelles du canton. Il y a une collaboration avec l'Office du tourisme de Saint-Maurice aussi depuis très peu
pour la billetterie, je crois.
Pour la billetterie, exactement. Ouais.
Alors, du coup, c'est une salle de spectacle, c'est aussi une compagnie théâtrale, on a les deux ?
On a les deux, et d'ailleurs, la compagnie vient de terminer le spectacle inaugural de la saison 2023-2024 avec une création de l'Orkuta qui a connu un très gros succès. Et puis la saison va continuer, donc il y a l'accueil de la compagnie qui a une place privilégiée dans ce théâtre, et puis il y a un accueil de spectacles, de jeunes... Enfin, d'artistes, soit de musiciens, soit de comédiens, du Valais et de la Suisse romande.
Alors, il y a une saison théâtrale. Hein. On peut peut-être en parler, vu que vous êtes là. Qu'est-ce qui nous attend ? Qu'est-ce qui attend le public ?
Alors, le prochain spectacle, en fait, je ne devrais pas en parler parce qu'il est déjà complet.
Ah, désolé. Voilà, on peut juste donner envie.
Donc, c'est Philippe Ligron, hein, le cuisinier qui intervient sur Couloir 3, sur la RTS aussi, qui donnera une conférence... Bon appétit, mais le jeudi 5 octobre, mais le spectacle est déjà comblé depuis quelques temps. Et puis ensuite, vont suivre cet automne un hommage à Julius Bocarn avec Pascal Rinaldi et Vincent Zanetti, donc des gens qu'on connaît bien dans la région. Ça, c'est le 13 octobre. Et puis après, Hystérie, par l'association Créadance à la fin du mois d'octobre. Et puis Yves Moulin, aussi un accordéoniste connu, voilà, qui viendra le 16, 17 et 19 novembre. Ça, c'est pour la première partie de la saison.
On a un site internet, hein, led.ch.
Oui.
C'est assez facile. Quand on préparait l'interview, tu as parlé du futur. Alors, y aurait quelque chose qui se prépare, quelque chose à dire ? J'en sais pas
bien,
plus.
Au sein du conseil de fondation, on se pose aussi la question de se renouveler aussi, d'élargir peut-être les activités du lieu, d'ouvrir le lieu à d'autres types de manifestations. Donc, on parle de conférences, de mise en valeur de l'histoire locale. C'est un projet que j'ai depuis quelques temps. Et puis peut-être en lien avec le projet de parc, si le projet de parc devait durer, je pense que ce serait intéressant pour le théâtre de se positionner comme un lieu de débat, d'animation, en lien avec toutes les activités futures du parc. On est au cœur du parc, un lieu qui est très sympathique et convivial. Donc il y a certainement quelque chose à voir dans cette optique-là.
Alors Éline, avec Nicolas Méton, on a un exemple là vraiment de l'intérêt de l'emballement, j'ai envie de dire, en tout cas du très bon accueil qui est réservé par les différents milieux pour ce parc. C'est réjouissant, j'imagine.
Oui, effectivement. Donc l'exemple parfait, c'est justement ce passeport découverte. Donc en allant rencontrer les différents acteurs touristiques, le concept a été très bien reçu. Aussi le fait que ça soit un concept qui s'inscrit dans la durabilité, dans le sens de promotion pour le tourisme durable, le loisir durable. Donc tous les partenaires nous ont très bien accueillis. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour les remercier puisque... Les rabais qui sont généreusement offerts grâce au passeport découverte sont mis à disposition et offerts par ces différents partenaires. Et merci aussi aux communes qui ont fait un bon accueil à ce projet global.
Merci à Nicolas qui est là. Du coup, il reçoit directement. Et puis merci aux six autres. Merci Nicolas Méton, le vice-président, je rappelle, du Théâtre du Dé, d'être venu un petit peu nous parler de cette belle institution. Éline, on va se retrouver dans un petit moment. On va marquer une pause musicale et puis on parlera d'un jeu d'évasion digitale. Ça promet plein de découvertes. Et on se retrouve pour parler du parc naturel régional. On était tout à l'heure sur le passeport découverte. Alors, il y a un autre moyen de faire des découvertes avec ce parc naturel régional qui complète finalement ce passeport papier. C'est un jeu d'évasion digital. Éline, on a là-dedans des idées de sortie de randonnées qui sont librement accessibles.
Oui, exactement. Donc ici, on retrouve des lieux peu connus, voire méconnus, ou d'autres qui sont aussi bien connus, qui sont répartis sur l'ensemble du territoire. Donc parfois, il faut marcher, parfois ça se trouve dans un village ou en ville. Et puis donc, on a, à travers ces différents lieux, 28 énigmes à résoudre.
28 énigmes pour finalement 28 points intéressants, lieux à découvrir.
Exactement. On les a d'ailleurs dispatchés dans différentes thématiques, puisque l'idée, c'était déjà d'avoir une représentativité des 7 communes. Donc, on retrouve plusieurs lieux par commune. Et puis, on a aussi fait quelques thématiques, comme par exemple avec un défi de l'explorateur pour les personnes qui seront peut-être un peu plus sportives et qui chercheront à marcher. Peut-être le défi de l'historien, où là, on met plutôt en valeur des points d'intérêt patrimoniaux.
Et puis, il y a le défi Saint-Moria aussi, voilà, parce que des points d'intérêt pour avoir la couronne du bon agonois. Comment faut faire finalement pour accomplir ces défis, pour les réussir?
Alors, il suffit de s'inscrire sur un site internet et grâce au login, on peut ensuite aller sur place. Donc, sur le site internet, vous verrez toutes les énigmes qui sont à disposition. En vous rendant sur place, on peut voir une question qui est donc l'énigme qui est à résoudre, des questions qui sont assez faciles. Sur place, on va trouver des indices. Il faudra être observateur. Il y a peut-être des panneaux didactiques ou alors une vue sur quelque chose qui nécessite de l'intérêt. Donc, en répondant à ces différentes questions, ça valide une première étape. Et puis après, il faudra chercher le QR code. Et pour chercher le QR code, on aura un indice qui nous permettra ensuite de pouvoir scanner et ça validera l'étape.
Alors, des énigmes, des lieux, ça permet d'apprendre finalement un peu plus de choses sur le lieu où on est. Et puis, c'est aussi une bonne opportunité de sensibiliser sur les richesses culturelles ou richesses naturelles qu'il y a. Tu l'as dit, pour y aller, il faut passer par Internet. Alors, chacun a reçu le passeport à la maison. Sur le passeport, il y a l'information pour se rendre sur Internet et trouver comment utiliser ce jeu d'évasion digitale.
Exactement. Donc, pour ceux qui ont reçu le passeport découverte, il y a un code d'accès qui permet directement de s'inscrire à ce jeu digital. Et puis, pour toutes les personnes qui seraient intéressées à participer au jeu d'évasion digitale, mais qui n'ont pas forcément le passeport, ou alors on peut aussi imaginer que dans un ménage, il y a plusieurs personnes qui souhaitent se défier voilà. À ce jeu.
Entre frères et sœurs.
Exactement. On peut volontiers aussi demander un code d'accès à travers la plateforme, donc sur passeport-découverte.ch. On demande un code d'accès, c'est totalement gratuit et puis ça permet de pouvoir se défier aux autres.
Voilà, et pour se faciliter la vie, on peut créer un raccourci et puis l'installer sur l'écran d'accueil de son téléphone, comme ça, ce qu'on appelle des web apps. Donc on a la possibilité, on n'a pas besoin de retourner chaque fois, on clique sur le petit logo et puis on peut y aller directement. Et on le rappelle, pour chacun, toutes les familles, c'est un passeport par famille, mais par contre, ce jeu digital, il est ouvert à tout le monde. Dernière chose, j'ai entendu parler d'une carte postale.
Oui, donc dans le passeport découverte, il y a une carte postale. On cherche à de nouveau refléter l'aspect du voyage à l'intérieur du parc naturel régional. Donc, on souhaite que les participants nous envoient leurs plus beaux souvenirs, donc soit en nous écrivant un magnifique texte ou alors en mettant une photo. Et puis, grâce à ça, ils pourront donc participer au concours et puis gagner des prix de la région. J'ai déjà reçu une magnifique carte postale,
déjà.
Donc le concours est d'ores et déjà ouvert, mais les résultats auront lieu en novembre 2024 pour et le jeu d'évasion digitale et la carte postale.
Voilà, c'est la date limite. Le passeport, c'est aussi novembre 2024.
Alors, tout existera jusqu'à fin décembre 2024.
Voilà.
Et puis, par contre, les résultats des concours sera en novembre 2024.
Voilà, donc ça laisse un peu de temps à chacun pour utiliser ce passeport à fond, pour faire toutes ces énigmes. Il y en a combien ? Il y en a 28. 28 points d'intérêt à découvrir. Donc, ça laisse quand même un peu de temps. Passeport-découverte.ch. Donc, ça, c'est aussi le site internet pour y aller. Ça peut arriver que peut-être certaines personnes n'aient pas reçu à la maison. Normalement, c'était adressé personnellement. Donc, ce passeport, etc. Comment faut faire si tout à coup on entend parler de ce passeport mais on l'a pas reçu?
Alors,
une solution.
S'il y a des questions en lien avec le jeu ou en lien avec le passeport, n'hésitez pas à vous adresser à nous, donc info@parc-valleydutrien.ch ou sinon aussi sur les réseaux sociaux. On a plusieurs canaux de communication et on est à disposition pour, s'il faut aussi, vous aider à créer votre login, etc.
Donc, pas de panique, il n'y a pas de problème. Il n'y a que des solutions. Voilà, pour les aspects divertissants, on va parler d'embroussaillement dans un moment. C'est l'axe de développement qui se consacre à la biodiversité et au paysage. Petite pause et puis retour à la nature. On va parler de trois projets, d'un des axes de développement, l'axe qui s'intitule biodiversité et paysage. Trois projets qui tournent autour d'une même thématique, ou même problématique, on peut dire, l'embroussaillement. Alors, j'ai un petit texte. L'embroussaillement, par définition, c'est le retour de la végétation buissonnante ou arborée sur des terrains qui autrefois étaient entretenus par la fauche, par la pâture. Donc, souvent, c'est des terrains agricoles ou semi-agricoles. On a avec nous Adrien Favre, hello.
Salut.
Et Jérôme Fournier.
Salut.
Qui sont là pour nous en parler. Alors l'embroussaillement, c'est un problème en Valais. Il faut le dire, on perd chaque année 1 million de mètres carrés face à l'embroussaillement. C'est beaucoup. Ça veut dire que la forêt accroît sa surface à grande vitesse. Alors Adrien, comment on explique ce phénomène de l'embroussaillement ?
Alors il y a plusieurs raisons qui se combinent pour arriver à ce résultat. L'évidence, c'est le réchauffement climatique. Donc par exemple, la forêt pousse plus haut et elle envahit les alpages lorsqu'elle arrive à l'altitude de l'alpage. À cela s'ajoute bien sûr que dans les alpages eux-mêmes et dans les pâturages aussi, on a une sorte de déprise agricole, c'est-à-dire qu'on avait à l'époque de la production, on va dire, quantitative, plus de bétail que ce qu'on a aujourd'hui. Il faut savoir par exemple qu'une vache pourrait traiter environ 1 hectare, mais si on diminue de moitié le cheptel, évidemment, on perd le contrôle sur la moitié du pâturage. Voilà, à cela s'ajoute le fait qu'à l'époque, il y avait beaucoup de micro-agriculteurs, c'est-à-dire que toutes les familles possédaient une chèvre, une vache du bétail.
Qui pouvaient brouter
exactement,
dans le coin.
Soit librement autour du village pour les chèvres, par exemple, ou alors ils remettaient leur bétail à des agriculteurs. Et contre les bons soins de l'agriculteur, eh bien, ces gens venaient aider l'agriculteur sur les terrains dans les pâturages, par exemple, pour enlever les cailloux, pour faire du soin aux clairières, parce que si on ne coupe pas les arbres en bordure, eh bien, les arbres viennent et mangent le pâturage. Donc voilà, tout ça, c'est du travail que les agriculteurs aujourd'hui n'ont plus. C'était du travail gratuit ou alors un bon échange de procédés. Et fatalement, la forêt revient à grands pas.
C'est vrai que je suis presque moi-même surpris si je croise une chèvre. On peut aller en France voisine, il y avait ce fameux village des chèvres où on est presque surpris d'en voir qui se déplace librement. C'est dire si c'est quelque chose qui a disparu. Alors, trois projets du parc sont liés à cette problématique, les broussailles, les choses qui repoussent. Alors, on a les espèces rares et emblématiques, les alpages et les clairières et les châtaigneraies. Ces trois sujets qu'on va aborder. Et c'est vrai que, je reviens là-dessus, hein, faire comprendre à nos populations que le retour des forêts, c'est pas forcément quelque chose qui est positif. Quand on pense à l'Amazonie, quand on pense à la déforestation, on se dit mais il faudrait un maximum d'arbres partout, il faudrait le plus grand nombre de forêts partout, mais c'est pas forcément la meilleure des choses. Il faut couper des buissons, il faut couper des arbres, c'est essentiel pour maintenir des habitats propices à la biodiversité, pardon, et au tourisme. Alors on va essayer quand même de casser cette idée préconçue et puis de voir en quoi c'est important finalement de lutter, de faire un maximum de choses contre l'embroussaillement. Jérôme, le premier projet parle des espèces rares et des espèces emblématiques. Globalement, de quoi il s'agit ? On commence peut-être avec, c'était quoi la première chose ? Les tulipes sauvages.
Oui, alors il y a trois espèces qui sont concernées par ce projet. Les tulipes sauvages, la magicienne dentelée et puis également la bacchante qui est un papillon, on va y revenir. Ces espèces, ce qu'elles ont en commun, comme le nom l'indique, elles sont rares. Elles sont aussi emblématiques de la région. Et puis, donc rares parce qu'elles se trouvent sur la liste rouge des espèces menacées
elles
de
disparaissent.
Suisse. Donc, c'est des espèces qui sont en régression. Effectivement, on a tendance à penser que les forêts, c'est bien pour la biodiversité, ce qui n'est pas faux. Donc, les forêts sont des milieux qui sont très 20 importants pour la conservation de la biodiversité, mais les forêts, le milieu forestier, ce n'est pas le milieu le plus menacé en Suisse. Donc les espèces qui sont liées au milieu forestier, elles se maintiennent pour la plupart relativement bien, alors que les espèces qui sont liées au milieu ouvert, à certains milieux ouverts, notamment les milieux qui sont maintenus ouverts par l'agriculture traditionnelle, ces espèces-là, parmi ces espèces, on va en trouver qui sont justement sur la liste rouge. Donc ces espèces qui sont liées au milieu agricole traditionnel. Donc ces espèces, elles sont menacées par l'embroussaillement dont on a parlé. Elles sont aussi menacées par l'intensification de l'agriculture dans certains endroits et aussi par l'urbanisation. Alors ces trois espèces, tulipe, magicienne et bacchante, dans le cas particulier, ici dans la région, c'est plutôt la déprise agricole qui fait qu'elle continue à régresser.
Alors on peut peut-être expliquer un peu pour chacune de ces espèces qu'est-ce qui a été fait ou qui va être fait. La tulipe sauvage,
oui,
peut-être
la tulipe,
commencer.
Tout d'abord, c'est une magnifique. Bon, tout le monde connaît les tulipes. Hein, là, c'est une tulipe sauvage de couleur jaune qui est traditionnellement liée aux cultures de céréales. Et là, évidemment, avec l'abandon de ces cultures, on a un embroussaillement qui fait que ces tulipes sont recouvertes de ronces et autres. Alors là, le but du projet, c'est de les remettre en lumière, en fait. Hein. Il y a eu plusieurs opérations débroussaillage sur 5 populations majeures qu'on trouve à Salvan. Donc cette tulipe, elle est surtout localisée à Salvan, mmh. Dans la région. Donc sur ces 5 populations, il y en a 3 qui ont fait l'objet d'opérations de débroussaillage. Alors c'est peut-être pas possible de faire ça pour toutes les tulipes qui sont encore en place. Certaines de ces tulipes... Les tulipes, tout le monde sait que c'est des... Enfin, quand elles ne sont pas en fleurs, si on sait où elles sont, elles se trouvent sous forme de bulbes dans le sol. Donc on peut retirer ces bulbes. Hein, c'est ce qui a été fait pour une partie de ces tulipes. Et puis ces bulbes ont été multipliées au jardin botanique de Champé. Ensuite, elles sont remises en place, là où il y a des endroits qui conviennent, et même distribuées à la population. Pour que ces tulipes puissent aussi être installées dans les jardins des citoyens.
Comme ça, chacun peut participer à les remettre en avant. Il y a ensuite, c'est des très beaux noms, hein, la magicienne dentelée.
Oui, la magicienne dentelée, ça dit peut-être pas grand-chose. Hein, c'est un nom, effectivement.
Moi, j'ai un esprit très imagé, donc je vois une magicienne. C'est effectivement...
Alors, c'est en fait une énorme sauterelle. C'est la plus grande sauterelle d'Europe. Qui peut atteindre la taille, plus de 10 cm de long, sans compter les antennes. Hein. Elle est assez longiligne comme ça. Elle est dépourvue d'ailes, c'est assez particulier. Et puis elle se reproduit, on ne connaît que des femelles en fait. Elles se reproduisent par parthénogenèse, c'est-à-dire que les femelles peuvent se reproduire seules sans avoir recours à un mâle. Voilà, donc ça fait sa particularité. Alors pourquoi magicienne? Peut-être parce que malgré sa grande taille, elle est très mimétique, très homochrome avec son milieu. Elle ne bouge pas, donc c'est extrêmement difficile de la voir. Et puis tout à coup, quand on la cherche, tout à coup, paf, elle apparaît comme une magicienne. Et puis même si on l'a bien localisée, si on revient un petit moment plus tard, on a de la peine, on peut ne plus la trouver. C'est comme si elle pouvait apparaître et disparaître comme ça par magie. Dentelée, ça fait référence en fait aux épines qu'elle a sur ses pattes. Donc la magicienne est une redoutable prédatrice des insectes des prairies sèches. Même la menthe religieuse peut faire partie de son menu. Donc en général, c'est plutôt des criquets, des sauterelles, etc.
Et là, les prairies sèches qui disparaissent... C'est un facteur aussi de disparition.
Oui, exactement. Donc, la disparition de ces prairies sèches suite à l'embroussaillement, ces prairies sèches, elles étaient entretenues autrefois de manière extensive, probablement surtout par des chèvres. Et comme il y a plus mode d'entretien, il y a bien des surfaces qui sont laissées à l'abandon. Et puis, les buissons reviennent. Et si on laisse encore aller, c'est la forêt. Et la magicienne disparaît.
La magicienne n'aime pas la forêt. Dernière, c'est un animal aussi, la bacchante, ne pas confondre avec la moustache, très à la mode, un papillon.
Oui, là c'est un papillon. Oui, je voulais préciser encore, il y a un projet par rapport à cette magicienne. Donc il y aura une opération qui va commencer cet automne de débroussaillage, déboisement sur certaines surfaces. Alors passons à la bacchante. Alors là, c'est un papillon, il n'est pas tout à fait lié au même milieu que la magicienne. Hein, donc lui, c'est un papillon forestier. C'est pas très courant d'avoir des papillons qui sont liés aux forêts, mais il n'est pas lié à n'importe quelle forêt. C'est un papillon qui est lié à des forêts claires, à des lisières. Il pond ses œufs uniquement sur des graminées qui sont en situation semi-ombragée. Voilà, donc c'est vraiment assez particulier au niveau microclimatique. C'est un papillon qui apprécie pas des milieux trop secs, donc il faut quand même un microclimat pas trop sec. C'est pour ça qu'on le trouve, pour ainsi dire, pas dans la vallée centrale. Par contre, il est présent dans le Chablais, jusque dans la région de Saint-Maurice, où on a une belle population dans le bois noir, justement, qui, par endroits encore, correspond à son habitat. Hein, c'est une forêt qui est claire. Alors, pourquoi ce papillon, il est menacé? Donc, il est aussi sur la liste rouge. Je vais peut-être quand même parler uniquement du cas du bois noir. Le bois noir, c'est une forêt de pins. C'est une forêt de pins qui s'est établie sur le cône de déjection du bois noir. Ce cône de déjection, il est dû à l'apport d'alluvions du torrent du Saint-Barthélemy, hein, qui, au cours de l'histoire, a débordé à plusieurs reprises. Quand il déborde, il remet le terrain à nu, il rapporte des alluvions, et puis la forêt se redéveloppe petit à petit. Donc en fait, ces débordements remettent le terrain à nu, empêchent une forêt dense de s'implanter. Le torrent a été endigué, donc ça veut dire que, bon, pour bien de la population évidemment, hein, donc on n'a plus, il déborde plus, la forêt se développe. En fait, cette forêt de pins, petit à petit, elle se transforme, elle se densifie, il y a d'autres arbres qui apparaissent. Et puis, il n'y a pas d'exploitation non plus. Autrefois, il y avait aussi des forêts qui étaient pâturées. On avait ces pâturages boisés. Donc la pâture en forêt aurait un effet positif sur ce papillon. Alors progressivement, le milieu forestier propice à ce papillon disparaît aussi, et le papillon risque de disparaître avec. Pour le moment, il y a encore des bonnes populations, mais là, il y a un projet qui prévoit justement de remettre en lumière certaines parties de la forêt de manière à favoriser le papillon.
Alors, un projet mené avec la bourgeoisie de Saint-Maurice,
oui,
donc, collaboration.
Oui, tout à fait. Ouais. Donc il y a déjà eu une partie qui a été faite dans ce cadre-là. Et puis le parc veut contribuer aussi à favoriser ce papillon, donc apporte encore des moyens supplémentaires pour des mesures en plus aussi.
Voilà pour les espèces rares et emblématiques. Petite pause, on se retrouve pour parler alpage et clairière. Et une belle émission consacrée largement au parc naturel régional de la vallée du Trien. On parle de l'axe biodiversité et paysage qui concerne ce parc naturel. On parle spécialement d'embroussaillement. Avec Adrien, on va parler alpage et clairière. Donc ça, tout le monde connaît, hein, les alpages et les clairières. Quel est le lien là avec l'embroussaillement?
Alors, comme on a parlé tout à l'heure, on perd beaucoup de terrain face à la forêt. Donc, c'est un processus qui est naturel et puis qui résulte du fait qu'il y ait moins de bras disponibles pour soutenir l'agriculture et pour garder la forêt à distance. Donc, l'objectif de ce projet Alpage et Clairière, c'est justement de venir en soutien au travail des agriculteurs, par exemple, pour enlever certains arbres qui commencent à envahir leurs alpages et pâturages, ou alors faire des soins aux clairières, etc. Alors la tâche, elle est considérable parce que c'est un travail qui est jamais fini. Un arbre coupé, eh bien, ça repousse très très vite. Au printemps de cette année, on a envoyé un courrier à tous les agriculteurs exploitant des terrains dans le périmètre du parc, et 8 d'entre eux ont déjà exprimé leur intérêt de recevoir un petit coup de main pour des pâturages et des alpages de toute taille.
Un beau succès, mais avec peut-être le point négatif, c'est l'aspect financier.
Alors ça, oui. je crois que c'est partout pareil. Surtout que là, il s'agit d'un projet sans fin. L'objectif officiel de ce projet était de procéder à des débroussaillements sur 1 hectare par an, donc un total de 3 hectares dans la phase de candidature. 8 agriculteurs, des pâturages et des alpages de tailles très différentes, et on dépasse de loin les possibilités du parc naturel régional. Et ça, c'est problématique, puisqu'on ne pensait pas avoir autant de succès avec ce projet. Et donc, on doit actionner le levier financier du parc, c'est-à-dire que nous faisons des demandes de fonds à gauche, à droite, dans différentes associations, pour pouvoir obtenir de l'argent supplémentaire pour pouvoir répondre à cette demande.
Il y a aussi les plantes envahissantes qui sont dans ce projet.
Alors, ça peut paraître étrange de mettre les plantes envahissantes avec l'embroussaillement des alpages. La logique derrière, c'est simplement qu'on retrouve sur un terrain utile des plantes qu'on ne souhaite pas. Les plantes envahissantes, la problématique est un peu différente, c'est-à-dire que là, on parle réellement de plantes dangereuses, que ce soit pour la santé, que ce soit pour l'environnement et pour l'agriculture. Et donc, il faut réagir. On a par exemple plusieurs espèces dans le parc. Les communes de plaine sont particulièrement touchées, mais notamment le bunia d'Orient qui a fait son apparition à Vernaya. C'est une plante qui a réduit à néant déjà plusieurs terrains agricoles dans le Valais central. On a aussi le sénesson du Cap qui menace les prairies sèches dont on parlait tout à l'heure avec la magicienne dentelée. Donc, vous voyez, tout est lié. Et donc voilà, avec le parc, on organise pour l'instant des événements de sensibilisation pour la population, soit par des séances d'information, on crée des flyers informatifs, et puis aussi quelques campagnes d'arrachage pour les citoyens bénévoles et motivés à venir arracher des plantes envahissantes sur le terrain.
Le dernier sujet, ça convient plutôt bien à cette période qui arrive, avec la brisolée, les châtaigneraies.
Tout à fait. Alors, les châtaigniers aussi subissent l'embroussaillement, donc... Ce ne sont pas des arbres qui tolèrent d'avoir des voisins, donc qui sont très vite étouffés par des arbres qui poussent. Donc les châtaigneraies, qui étaient essentielles à la survie de nos ancêtres, tranquillement se sont fait embroussailler, des grands arbres ont poussé et les châtaigniers périclitent. Donc c'est des arbres qui ne supportent pas la compétition avec d'autres essences. C'est dommage, puisque c'est des arbres qui ont fait partie de notre culture et agriculture, qui ont été un soutien pour les anciens. Mais il n'est pas trop tard pour réagir et essayer d'en sauver au moins une partie.
Dans le contexte électoral actuel, les châtaigniers qui n'aiment pas la concurrence, enfin c'est la compète. Alors, vous allez commencer par inventorier ces châtaigniers adultes l'ensemble du territoire.
C'est le premier pas. Il faut savoir où ils sont, repérer les plus importants, les plus volumineux, regarder les endroits où il y a une concentration qui est plus grande, ce qui pourrait indiquer une ancienne châtaigneraie. Et puis ça, on le fait grâce à Silva Plus, qui ont fait un super travail sur la commune de Saint-Maurice et puis de Martigny-Combes, en faisant voler leur drone au-dessus des châtaigniers en fleurs, donc ils produisent des fleurs blanches, donc elles sont très visibles depuis le ciel sur le feuillage vert. Et voilà, on a créé deux panneaux informatifs. Un est à la Fromathèque de Martigny-Combes et l'autre est dès aujourd'hui à l'Office du tourisme de Saint-Maurice. Donc vous pouvez aller le voir si vous le souhaitez. Vous apprendrez où se trouvent les différents châtaigniers de la commune de Saint-Maurice.
Là aussi, hein, c'est quelque chose de au long cours. Ça a commencé dans la phase de préparation du parc, et puis ça, il y a eu des revitalisations, et ça continue maintenant. On est en phase de candidature, mais c'est un projet qui vit.
Tout à fait, c'est un projet qui vit, c'est un projet qui avance. De la même manière que pour les autres projets, évidemment, ça coûte de l'argent. Il faut vraiment être sûr de sa stratégie. Il faut aussi avoir le soutien des agriculteurs, puisque désembroussailler, c'est bien, mais après, il faut avoir une stratégie durable. Avec le peu de temps qu'on a en phase de candidature, c'est très difficile à élaborer. En revanche, si on nous donne la chance de continuer au-delà de 2025, on pourra avoir... plus de ficelles à tirer, on pourra avoir plus d'opportunités pour avoir ces stratégies durables, justement.
Voilà, l'occasion. Ainsi, la population accepte, vote oui. Elle doit voter oui au mois de juin 2024. Travailler sur la durée, ça sera aussi remettre en place une tradition, la cueillette de châtaigne.
Alors, on espère qu'à terme, si on nous donne assez de temps, la cueillette de la châtaigne, la brisolée aura lieu. On commence tout bientôt, d'ailleurs le 14 octobre. Il y aura une balade gourmande sur la commune d'Eviona qui, justement... bénéficiera d'une brisolée, de nombreux produits locaux. Moi, je serai là pour montrer les panneaux. Donc voilà, c'est organisé avec la société de développement d'Eviona.
Rendez-vous donc le 14 octobre, balade gourmande avec une très bonne brisolée, plein d'autres bonnes choses automnales à déguster. Éline, Nicolas, Adrien, Jérôme, merci à vous quatre qui êtes dans le studio derrière ou devant le micro. Merci d'être venus nous voir. Merci. On parle des passeports découvertes, jeux d'évasion digitale et embroussaillement. On se retrouve bientôt pour le parc naturel régional.